C'est Voix contre oreille, on se retrouve comme tous les mercredis entre 8h et 9h. Et aujourd'hui, c'est la rentrée de notre partenariat avec l'association pour une constituante. On va parler de choses qui fâchent, c'est-à-dire de la prochaine élection présidentielle. On s'ennuie déjà. Et en fait, on va pas tant parler de la prochaine élection que on va parler plutôt des alternatives à cette élection et de ce qu'on pourrait faire différemment, et notamment, bien évidemment, du projet de constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Voilà, donc c'est notre partenariat avec l'association Pour une constituante, et on se retrouve avec vous, Antonin Delévert. Bonjour.
Bonjour Michel.
Alors autour de la table, il y a un autre habitué maintenant, c'est Ismaël Merighetti.
Bonjour à tous.
Bonjour Ismaël. Et donc nous sommes avec Paul Pescaire. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Donc passionné de politique et qui va nous parler de systèmes différents du nôtre, et notamment du système suisse. Alors Antonin, le programme de notre petite émission.
Ouais, alors pour commencer, je voulais refaire un point sur la pétition qu'on a mis en ligne avec l'asso. La pétition qui s'appelle présidentielle non constituante, oui. Bon, c'est assez simple toujours.
Voilà.
Elle est en marche, on a environ 1700 signatures, je crois, maintenant. Et... oui, c'est toujours cette pétition. On l'a mis en ligne pour un peu lutter contre cette logique présidentielle. Quoi. En gros, on est dans la situation où les Français sont là, il n'y a pas de candidat vraiment évident, il n'y a pas un goût spécifique pour la présidentielle. Et qu'est-ce qu'on fait? Un, on est forcé d'accepter la présidentielle. Deux, un candidat qu'on veut pas. Bon, on voulait un peu dépasser ça, proposer cette pétition pour aussi donner un endroit, un lieu pour que les gens puissent s'exprimer, se mettre ensemble et avoir un peu un bon groupe de gens qui décide de dire on aimerait aussi une alternative. Quoi.
Donc c'est donc la pétition qui est en ligne, que certains d'entre nous ont signé. Et
ouais, non, je voulais commencer par ça.
Oui, tout à fait.
Un mouvement un peu de groupe.
Alors on fait le sommaire et puis on détaillera chaque sujet.
Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de la présidentielle, un état des lieux des candidats. Il y a un gros morcellement en ce moment et on va essayer de discuter un peu de ça. Ensuite, je vais revenir un peu sur la nature de cette élection, faire un petit rappel historique sur la Constitution 58, le contexte dans lequel elle a été conçue et pourquoi De Gaulle, en l'occurrence à l'époque, l'a conçue de la manière qu'elle, a proposé de la concevoir de la manière qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, on va un peu réargumenter sur tous les espoirs et la logique qu'il y a derrière une constituante, surtout dans le contexte actuel. Après ça, on aura donc Paul qui va nous proposer une constituante, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on... Ensuite, les Français décideront donc d'un nouveau système et quelles idées on pourrait avoir de nouveaux systèmes d'organisation. Donc, on prendra l'exemple de la Suisse. Enfin, je reviendrai sur les actions du moment et tout ce qui se passe au niveau des communes citoyennes. Tout ça, j'imagine, bien en train de ponctuer de débats divers et variés.
Voilà, et de bonne musique aussi, voilà. Accessoirement. Allons-y. Donc, cette pétition, alors, où est-ce qu'elle en est? Ça avance,
on avance pas mal. Et avec la présidentielle qui approche, on est souvent confronté à une question, en tout cas quand j'en parle autour de moi, alors moi que ce soit mes étudiants ou à des potes, des militants, des trucs comme ça, c'est pourquoi est-ce qu'on refuse de passer par l'élection présidentielle pour imposer la constituante? Pourquoi ne pas le faire depuis l'intérieur du système en gros? Alors en gros, à l'asso on récuse l'idée, parce que selon nous les deux objectifs se contredisent. C'est pourquoi on veut remplacer cette élection présidentielle par l'élection d'une constituante au lieu d'attendre d'un candidat qui veut bien la mettre en place. C'est une manière symbolique de se libérer de l'obsession présidentielle, qui est malheureusement un pilier de nos institutions actuelles et, je pense, un certain poison pour la démocratie. Et, Alors ensuite, en termes de bilan sur la présidentielle, je pense qu'on pourrait faire un petit point... Il y a un petit point intéressant à faire, je pense, sur l'émergence de plusieurs phénomènes. Alors, il y a deux phénomènes importants, je trouve. C'est l'émergence Macron, qui est un peu un catalyseur de nouvelles énergies. voir à quel point ce phénomène est vraiment c'est du vent ou pas, et les affaires de Sarko, quoi. Alors je sais pas si Ismaël t'as un peu de
on peut effectivement, il y a l'émergence de cette nouvelle figure qui est Emmanuel Macron depuis quelques mois maintenant, et qui porte, en tout cas c'est ce qu'il prétend, une nouvelle façon de faire de la politique, un petit peu hors des partis. Il veut casser les codes, il est hors du cadre, hein, il a quitté le gouvernement, il se revendique même pas socialiste, donc il ne veut même pas en fait passer par la primaire socialiste, et il lance quelque chose qui est assez inédit finalement sous la Ve République, c'est-à-dire un mouvement, non pas un parti politique mais un mouvement, et il veut se présenter à l'élection présidentielle sans avoir aucun appareil, sans avoir forcément beaucoup d'élus locaux qui le soutiennent. On sait qu'il y a Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui est un de ses fidèles proches, mais il a assez peu de personnel politique à sa disposition, on va dire. Et puis voilà, il veut quand même y aller et avoir un contact beaucoup plus direct en fait avec le citoyen, sans passer par l'appareil d'un parti. Et c'est ce qu'il a fait depuis cet été, depuis aussi qu'il a quitté le gouvernement, c'est-à-dire aller à la rencontre directement des gens. Et c'est un contact un peu one-one finalement. Il essaye de casser les codes.
Ils ont fait ce truc de porte-à-porte tout l'été apparemment. Et alors justement, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont venus ici, qui ont été à ce micro il y a quelques émissions, genre des étudiants à moi, qui sont impliqués à mort dans la campagne de Macron. Alors je dirais pas leur nom, mais en gros, j'ai pu avoir un inside d'assez proche, assez marrant, où ils m'ont raconté justement tout ce truc de aller vers les gens, aller au porte-à-porte tout l'été dans toutes les régions de France, et essayer de faire une grande enquête pour avoir un peu le sentiment des Français, et voir un peu baser en fait le programme, son futur programme là-dessus. Donc c'est assez intéressant, et moi ce que j'ai vu surtout c'est ce phénomène où en gros, il y en a donc un ou deux qui sont responsables un peu de la campagne quoi, et de sa com notamment, et qui, j'aurais dit mais c'est quoi ce délire, est-ce qu'il va passer à la primaire et tout, ils me disent, ah non c'est simple, s'il va en primaire, nous on se casse. En gros ils sont vraiment dans le refus, il arrive à tirer d'énergie par cette nouveauté et son indépendance, mais le premier truc qu'ils m'ont dit c'est ça, s'il va en primaire, on s'en va, ça nous intéresse pas. Donc apparemment il arrive à tirer des énergies, alors un peu, bon c'est des jeunes, 18-19 ans, mais avec un... Non, une énergie, un cerveau qui marche bien, quoi, et ils sont motivés, enfin, ils veulent, ils se disent, tiens, il y a un espoir là-bas. Après, ils font leur expérience, mais...
Mais ce qui est intéressant, paradoxalement, c'est qu'à la fois, il y a cette nouveauté, c'est-à-dire cette idée de casser les codes, et en même temps, on retrouve cette dynamique très 5ème République de la recherche d'un homme sauveur, en fait.
Ouais, toujours.
D'un homme, de cette recherche du Messie, finalement. On adhère à une personnalité plus encore qu'un programme, qu'un parti. Et en fait, il retrouve cette énergie-là de la Ve République qui est toute son essence.
Mais alors, donc, quand même, Macron, donc oui, il y a cette figure qui entraîne derrière lui, qui incarne un peu, un espoir de un peu de renouveau, d'une nouvelle figure, etc. Est-ce que c'est, et puis ce qui est quand même étonnant, c'est que il a une image de finalement de personne qui incarne la modernité. Tu disais donc les jeunes, ils vont derrière lui, il attire pas mal, et il a cette image de modernité, celui qui va un peu qui est pas dans les codes habituels, et qui est un peu différent. Alors, est-ce que c'est pas totalement usurpé cette image, parce que quand même dans tout son programme, dans ses idées, ça m'a l'air être un peu le retour au Second Empire, non?
Ouais, alors en fait le problème c'est que j'ai même l'impression vu l'extérieur que c'est même plus une question de programme, quoi. En gros, tant que c'est décent, vu qu'on arrive à avoir quelqu'un qui sort un peu du lot, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il faut imaginer le désarroi qu'il y a dans la jeunesse aujourd'hui. Même, moi, je ressens personnellement, hein, quand on voit tout, les propositions qu'on a, mais c'est l'horreur. Enfin, c'est vraiment nul, quoi. Il n'y a pas d'espoir. Et on se dit, j'ai l'impression qu'il, s'il y a quelqu'un qui propose un truc nouveau, qui a l'air dynamique, ça suffit. On va pas trop, après, on pourra discuter le programme, mais j'ai l'impression vraiment que juste le phénomène, vraiment, pour le coup, présidentiel individuel, compte plus. Alors oui, le programme, moi, je vois ce que j'en pense et je vois les idées qu'il défend. Mais j'ai l'impression que c'est même plus ça le problème. C'est juste les gens veulent un truc, veulent s'engager et puis se disent, aujourd'hui, tout ce qui est droite, gauche, ennuie tout le monde. Le saut à l'extrême droite, ça fait pas rêver. Et l'extrême gauche ennuie pas mal. En tout cas, ça marche encore, mais ils ont pas non plus envie d'être élus, donc voilà. Donc, c'est juste. On pourrait parler de ces idées, mais j'ai même l'impression juste que le fait qu'il existe, qu'il propose autre chose, va lui amener beaucoup de choses. Mais je sais pas si ça va. Il a quand même un profil assez particulier, il faut espérer qu'il dise, que ce soit pas juste encore une bulle médiatique et que ça attire quelques Parisiens, et voilà quoi.
Ouais. Ismaël, tu voulais réagir ?
Ah non, c'est vrai que c'est une vraie question. Là, jusqu'à présent, il faut bien le préciser, on parle que de la forme politique. On ne s'est pas encore intéressé au fond, Macron. Oui. Mais effectivement, c'est vrai qu'il parle aux jeunes, beaucoup.
Ouais.
Ne serait-ce que parce que lui, plutôt jeune par rapport à la classe politique existante. Et ensuite, parce que, pour parler un peu du fond, il a ce discours très libéral et très entrepreneurial, en fait, qui parle à une certaine partie de la jeunesse, peut-être beaucoup parisienne aussi, qui vit avec la crise depuis 2008 et qui n'a pas forcément en tête tous les acquis sociaux parce qu'elle n'y est pas confrontée en fait tous les jours parce qu'on lui donne pas accès à ces acquis sociaux.
Ah non, on a acquis le fait qu'on n'aurait pas de contrat stable. Donc,
voilà, et donc du coup Macron arrive et parle de réussite, parle d'entrepreneuriat avec derrière toute une cassure des acquis sociaux de la 5ème République et même avant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, forcément, les jeunes n'entendent pas toujours. Ils entendent la réussite, l'entrepreneuriat, et voilà.
Voilà, parce que sous des atours de modernité, de voilà, on va entreprendre, on est dynamique. Derrière ça, c'est on travaille le dimanche, on travaille la nuit, mais c'est pas grave comme on est dynamique, on travaille la nuit au même prix que la journée. Mais surtout si c'est les autres, hein, parce que faut bien, il y a un peu ça derrière quand même Macron quoi.
Oui, non, moi c'est toujours les questions que je me pose, c'est est-ce que cette personne aime la France avec son histoire sociale ou pas. Bon, moi, je me pose la question dès que je vois un candidat, et après, bon, je peux pas répondre pour lui, mais c'est vrai que j'ai plus de doutes sur l'amour de l'héritage social de Macron.
Okay. Après, bon, alors ça, c'était pour Macron. On parle...
Il y a aussi les affaires de Sarkozy. Je pense qu'on a un expert autour de la table.
Non, si on parle d'élections présidentielles,
tu vas finir en prison.
Une des grosses questions qui va se poser, puisqu'on a parlé là de Macron, donc une des questions pour Macron, c'est de savoir s'il va aller jusqu'au bout, s'il va se présenter, si son mouvement va pouvoir être porteur pour lui. Un des gros enjeux également de cette préélection, finalement, c'est la place de Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, qui est pour l'instant le mieux placé à droite, d'après les sondages malgré tout, chez les sympathisants de droite, pour la primaire des Républicains, et qui est de plus en plus impliqué dans un certain nombre d'affaires judiciaires qui peuvent lui nuire déjà du point de vue de l'image d'ici l'élection présidentielle, et même peut-être plus, il va falloir voir les suites judiciaires qu'il va y avoir, notamment sur l'affaire qui est sortie hier de continuité de cette affaire sur le financement libyen de sa campagne de 2007.
Oh là là. Ouais.
Et donc voilà, il y a une grosse inconnue Sarkozy parce qu'il est je pense assez freiné par toutes ces scandales politico-judiciaires.
Alors tu rappelles-nous un peu qu'on en profite.
Allez, on en profite.
on va se faire un peu plaisir. Donc alors, qu'est-ce qui est sorti hier et cette histoire de financement par la Libye.
Alors c'est une des multiples affaires qui le poursuivent. Alors. Il y a eu des soupçons de financement par Kadhafi à hauteur d'environ 50 millions d'euros de sa campagne de 2007.
Une bagatelle.
Une petite bagatelle. Sachant qu'il faut bien préciser qu'une campagne électorale française est limitée à environ 22 millions d'euros de budget. On n'a pas le droit de dépasser ce montant-là.
Bon.
Et il est déjà également impliqué dans un financement illégal de sa campagne de 2012 où il aurait dépassé allègrement le montant autorisé. Donc pour le financement libyen de la campagne de 2007, voilà. Donc il y a des dignitaires libyens après la chute du régime qui ont fait des déclarations publiques au moment de l'intervention de la France en Libye pour expliquer que la Libye avait soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, ce qui avait été démenti à l'époque évidemment par tout son entourage et par lui-même. Mediapart avait sorti des documents qui ont depuis été authentifiés, c'est-à-dire qu'on sait que les documents écrits qui précisent qu'il y a bien eu un versement d'argent entre la Libye et la France, ces documents-là ont été authentifiés. Et là, les nouvelles révélations, alors il faut attendre d'en savoir plus, hein, les choses sont sorties au compte-gouttes jusqu'à présent, mais iraient dans le sens et accréditeraient cette thèse très très fortement.
Voilà. donc, affaire à suivre, et puis...
Un petit résumé en vidéo peut-être.
Non, alors, ouais.
Belle perche.
Alors, ouais, effectivement, ça sera le prochain épisode Fast and Curious sur YouTube qui sort tout à l'heure, mercredi. Donc, ça sera l'occasion d'en parler dans la prochaine émission. Et effectivement, on s'intéresse à deux autres affaires qui sont encore plus, peut-être, on peut en dire deux mots, qui sont encore plus importantes pour Nicolas Sarkozy. C'est un, l'affaire Pygmalion, c'est-à-dire le financement illégal de sa campagne de 2012. Le fait qu'il aurait dépassé il serait passé de 22 millions à 45 millions d'euros pour sa campagne par tout un système de fausses factures, voilà. Donc j'y reviens dans la vidéo, et ça, il est mis en examen et il y a un risque d'avoir un procès peut-être pas d'ici l'élection présidentielle, mais en tout cas après, un risque assez certain pour le procès. Et la deuxième affaire, c'est l'affaire des écoutes téléphoniques. C'est justement dans le cadre du financement libyen de la campagne de 2007, il avait été mis sur écoute. Et lors de ces écoutes, on apprend, dans des conversations avec son avocat, qu'il fait pression sur la justice par l'intermédiaire de divers magistrats pour avoir des informations sur toutes les affaires qu'il menace et qui étaient en cours à cette époque-là. On parle de 2012-2014. Et donc on se rend compte, voilà, trafic d'influence, corruption. Et pour cette affaire-là, également, il est mis en examen et il risque très fortement un procès. Et si le procès aboutissait, ça serait des peines très lourdes qui peuvent aller de 5 à 10 ans de prison. Donc là, il est très sérieusement mis en cause.
Bien, bien, bien. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que malgré tout ça, bon, même si tout ça nécessite d'être confirmé, etc., on a l'impression que finalement, ça ne l'unit pas tant que ça, en tout cas pour l'instant.
Alors, ce qui est fascinant, il y a deux choses. Ce qui est fascinant, c'est que la première, il y avait ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur, dont Sarkozy était un proche. C'est un ministre mis en examen doit démissionner. Bon, alors, Sarkozy, là, n'est pas ministre, mais on considérait à l'époque que la simple mise en examen était, même si elle respecte la présomption d'innocence, était suffisamment grave pour qu'un homme d'État ne puisse pas mener totalement à bien ses fonctions. Là, Sarkozy a quand même deux mises en examen, plus un certain nombre d'autres affaires où il est sous le statut de témoin assisté, ce qui est un petit peu moins grave que la mise en examen, mais quand même. Et il sera probablement candidat à l'élection présidentielle, donc ça pose une question morale. Est-ce que on peut élire un prochain président de la République qui est déjà doublement mis en examen? Voilà, je pose la question.
Donc en tout cas, pour l'instant, il poursuit sa route. Et puis les Français, finalement, ils n'ont pas l'air de...
Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça renforce les opinions des deux côtés. C'est-à-dire que ses détracteurs continuent à être hostiles à son point de vue. Et ça ne fait que renforcer l'hostilité à son égard. Et à l'inverse, les sympathisants républicains, notamment, parlent d'harcèlement, d'acharnement médiatique même, quand on évoque les affaires, donc ça renforce ses soutiens.
Voilà, donc ok, alors tout ça c'est pas super réjouissant malgré tout, au-delà de... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc sur 2017? Est-ce qu'il y a absolument aucun espoir ou est-ce que finalement il peut y avoir quand même des choses à gauche qui...
Alors moi je suis pas là pour donner une consigne de vote, parce que personnellement j'ai même pas dit je blague, mais c'est pour dire oui, moi ça renforce vraiment l'idée de bon. C'est vrai que cette présidentielle est quand même pas très... ce système est vraiment pas très bien conçu. On se retrouve vraiment avec des candidats qui font pas rêver, avec une légitimité qui est vraiment très médiatique. Il faut vraiment des gens qui maîtrisent la machine. On n'a pas l'impression qu'il y a un peu un mouvement populaire d'émission d'idées. Et donc bon, je pense quand même que toute la notion de constituante est de plus en plus renforcé dans ce genre de contexte. On est forcé d'accepter des conditions catastrophiques, des conditions avec des candidats vraiment de plus en plus. Mais là, on a un effet Berlusconi en France, quoi. Enfin, des candidats qui s'empêtent dans des affaires. On est confronté soit à ça, soit à un président sortant qui a réussi à rien faire après, pour rien faire en termes de chômage après avoir mis beaucoup d'espoir de gauche dans le cœur des gens. Je pense vraiment que là, bon, au lieu d'accepter un type qu'on veut pas, il faudrait peut-être vraiment commencer à penser le système. Oui.
Bah, schématiquement, c'est un peu... J'avais l'impression que, par exemple, en 2002, avec tous ces candidats, on se posait la question pour qui je vais voter. En 2007, c'était un peu pour qui je... Non, oui, en 2007, un petit peu.
Oui, 2007, il y a eu l'effet, bon, on en a marre de Sarko.
Et en 2012, c'était plutôt pour qui je ne vais pas voter, oui, en fait. Oui, et en 2017, c'est un peu pourquoi je vote.
Oui, c'est ça. Pourquoi?
Voilà. L'idée de constituante, elle fait quand même un petit peu son chemin.
Oui.
On en parlait hors antenne avec Paul, le fait que même Mélenchon...
Ah oui, on va en parler après la pause.
On en parle après, ok.
Parce que j'ai un point sur Mélenchon. Là.
D'accord. Bon, alors on envoie la musique et on se retrouve juste après.
Watch
Led Zeppelin sur Allegre FM 93.1. On est dans Voix contre oreille avec l'association pour une constituante et autour de la table Antonin Delévert, donc notre animateur, Ismaël Merighetti, donc producteur, auteur de la chaîne Fast and Curious, qu'on retrouve chaque mois à ce micro maintenant, et donc Paul, qui donc Paul Pescaire, j'arrive c'est à ça. Le dire, voilà, donc qui était au micro également. Alors on était donc sur l'ennui annoncé autour de la présidentielle.
Ouais.
Alors tu veux, Antonin, peut-être nous rappeler un peu d'où vient ce système présidentiel de la 5e République.
Alors le truc important, c'est qu'aujourd'hui l'élection a quand même changé de nature pas mal. Quand elle a été conçue en 58, dans l'esprit de De Gaulle, la Constitution c'était quand même un homme face à un peuple. Alors ça marchait bien avec l'esprit français, je dis pas, hein, mais aujourd'hui c'est plus du tout ça. Pardon. On a changé la nature de tout le processus, on a des primaires et on a encore plus atténué un peu la relation de cet homme providentiel au peuple en faisant un condensé médiatique. Et en fait, depuis même Mitterrand, l'effet, moi ce que j'appelle l'effet grand schtroumpf, toujours l'effet grand sauveur sage qui vient aider la France, est vachement atténué, quoi. Ça a pas mal disparu. On a une légitimité du vote qui penche plus vers le parti, même que vers le référendum populaire. Donc, en gros, avoir ce contexte institutionnel conçu autour d'un homme face à un peuple n'a plus trop de sens depuis que De Gaulle n'est plus là, quoi. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un rappel rapide pour De Gaulle. On a eu le putsch d'Alger qui s'est passé en mai 58. Ça a entraîné le retour au pouvoir du général De Gaulle. Il est investi comme président du Conseil par le Parlement. Et en gros, il accepte de reprendre le pouvoir en juin 58 à condition de modifier la Constitution. Le Parlement lui dit à l'époque, ok, mais avec quelques conditions. En fait, on va se rendre compte avec ces conditions que c'est pas si dur que ça de lancer un changement constitutionnel parce que le pays va pas tomber dans le fascisme. Si le Parlement impose des conditions très, très simples, on peut s'en sortir avec un changement correct. Donc le Parlement a imposé 5 conditions de fond à la réforme de Constitution de De Gaulle. 1. Le suffrage universel est la seule source du pouvoir. 2. Le pouvoir exécutif et le législatif doivent être séparés effectivement. 3. Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. 4. L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante. Et enfin, alors dans le contexte de l'Algérie surtout, la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la France avec les peuples qui lui sont associés. Alors c'était ce point là qui était.
Donc c'est un point important.
Que le Parlement a imposé à De Gaulle avant sa réforme de la Constitution. Bon, c'est des points démocratiques fondamentaux, mais qui permettent de garder un cadre non tyrannique. Donc en gros, on a le Parlement qui voulait voir créer une constitution démocratique, qui instaurait un régime parlementaire, et qui pouvait régler en gros les problèmes qu'avait la France avec les colonies dans le contexte algérien. Donc la révision sera soumise à référendum. Alors, De Gaulle sera pas mal discuté là-dessus, il y aura beaucoup de reproches. Surtout qu'en gros, en faisant ça, De Gaulle a pu déroger à une règle, à la règle assez contraignante de révision qu'avait la Constitution de la 4ème République. Pour s'en débarrasser, il a juste décidé d'en faire une 5ème. Alors, le texte issu de ces interventions sera en gros proposé au vote français le 28 septembre 58, par référendum, et il sera voté à 80% des voix. Alors, pour être précis, 79,5%. Sachant que l'abstention au cours de ce vote était de 15%, un taux extrêmement faible par rapport au taux qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et cette constitution sera promulguée en 58. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent. Le problème, c'est que... Donc oui, comme je disais tout à l'heure, on a une légitimité qui tire plus vers les partis que vers le référendum populaire. Et on a un peu un essoufflement de cet effet homme face à un peuple. Alors on a l'impression que tous les politiciens essaient de reprendre un peu ce souffle, que ce soit Sarkozy ou maintenant même Macron dont on parlait. Mais bon, on a quand même l'impression que, sans un background de type « j'ai libéré la France », cette notion de présidentielle a moins de sens. A moins de sens, c'est un peu plus difficile, et on tombe dans un truc un peu plus... On est quand même dans une... Enfin, on a beaucoup de candidats qui s'inscrivent dans une logique libérale, et on a un peu moins l'impression d'avoir... un représentant qui va défendre les intérêts historiques de la France, quoi. Quand on voit les législatives aujourd'hui, alors moi j'en parlais avec André Bellon il y a pas longtemps, lui-même ancien député, c'est vrai qu'on est arrivé un peu à la conclusion que les législatives aujourd'hui, souvent, vu qu'on est dans une logique de parti, bien plus qu'une logique donc plus genre de référendum populaire, on a quand même l'impression que dans pas mal de cas, même si c'est toujours des élections, on a souvent une cooptation des élus qui sera avalisée en gros par une élection, quoi. Vu qu'on balance, vu qu'on a toujours deux gros partis qui, dans beaucoup de régions, se présentent et vont prendre les votes, on balance un peu des gens et on les, oui voilà, les gens vont, enfin, le peuple va voter pour les deux parce que bon bah, y a pas non plus d'autre choix. On arrive quand même à une démocratie assez limitée et c'est un peu un triste état de démocratie aujourd'hui, quoi.
Donc on a un peu l'impression, déjà les gens ont l'impression que quoi qu'ils votent, finalement ça change pas grand chose.
Bah, ouais.
Est-ce que c'est pas aussi la responsabilité de la gauche, du PS, de Hollande, finalement d'avoir démontré que finalement même si on votait à gauche, on se retrouvait avec des Macron, Valls, qui finalement revenaient à peu près au même que des Sarkozy.
Bah, c'est marrant parce que il y avait une interview de François Hollande qui a été faite par Nora, je pense, et qui est publiée dans Le Monde mi-septembre, où Hollande se défend de ça et dit oui, on dit toujours à la gauche qu'elle trahit quand elle est au pouvoir et qu'on est très bien dans l'opposition, etc. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bah, limite, il reconnaissait lui-même ce phénomène. Et moi, j'en ai un peu marre, justement, qu'on met cette responsabilité, alors soit sur l'Europe, soit machin, soit sur d'autres raisons extérieures, et même qu'on dise c'est un peu la responsabilité de la gauche. Maintenant, j'ai envie de dire que le peuple reprenne ses responsabilités, redemande un peu un autre processus électoral, et commence à défendre d'autres idées, quoi. Et donc, justement, la constituante s'intervient ici, et que le peuple en plus de responsabilité. On a aussi les dirigeants qu'on mérite. À un moment, on vote pour eux, quoi. Donc, il faut. Moi, je veux responsabiliser les citoyens français.
Responsabiliser le peuple. Ouais, Ismaël.
Alors, je sais pas mieux.
D'accord. Ok. Ismaël. je m'emmêle les crayons. Antonin.
Ouais, non, souvent, à l'association, souvent, ce qu'on entend, donc je vais revenir sur Mélenchon à cette occasion, les explications qu'on donne sur le principe de constituant, c'est-à-dire reformer localement des assemblées, des petites assemblées où les gens proposent écrivent des cahiers de doléances qu'on a appelés aujourd'hui des cahiers d'exigences. Les gens, souvent, quand on fait ces explications, on se heurte souvent à un militantisme un peu fermé, lors de différents turiféraires de telle ou telle association politique, soit PS ou autre, UMP, qui nous dit souvent, en gros, ce qu'on voit souvent sur notre site, en gros, ou sur la page Facebook, c'est des interjections qui, assez caractéristiques du style constituante ou pas, tu seras toujours obligé de passer par la présidentielle. On a un commentaire qu'on a reçu, était genre, attendez-vous des martiens pour nous obliger à mettre la constituante en place. Comme si, en gros, on pouvait jamais penser en dehors de la boîte présidentielle, etc. C'est un peu une insulte à l'histoire de France. On a quand même vu tous les grands mouvements révolutionnaires démocratiques sortir de la boîte dans laquelle ils étaient imposés et créer de nouvelles idées. Donc, des telles méthodes type ce genre de commentaires sur on doit rester dans la boîte ont souvent pour objet de clore tout le débat. C'est pas très habile. Et, en fait, on a aussi créé des amis de notre cher président ont créé un petit sketch là-dessus.
Ouais.
Qu'on pourrait peut-être diffuser. Alors, c'est juste une piste MP3 vu qu'on n'a pas l'image. Et qu'on pourrait peut-être passer maintenant avant de commenter.
Ok, alors donc c'est une petite vidéo qu'on trouve sur YouTube de l'association qui met en scène un dialogue pour illustrer le fait qu'il faut se prendre en main,
mettre un peu en action quelqu'un d'assez blasé qui se pose des questions et des réponses simples en gros, genre d'interrogation.
Ok, et on y va pour la vidéo de l'association pour une constituante.
Ce président, j'en ai vraiment assez. Il faut que ça change.
Avec un autre, ce sera pareil.
Mais au moins, on aura changé.
Pourquoi faire ? Il fera ce qu'il voudra, puisque le système le lui permet. Moi, je ne sais pas pourquoi j'irai voter.
Moi, je voterai pour quelqu'un qui apportera vraiment le changement.
Tu en es sûr ?
Au moins, j'aurai essayé.
Tu veux absolument qu'il y ait un chef ?
Non, mais on ne peut pas faire autrement.
Tu es sûr ? Tu ne veux pas être citoyen ?
Mais comment ?
En changeant les règles du jeu.
Ça peut se faire ?
Oui, ça s'appelle une constituante.
Ah.
On élit des gens pour changer la règle du jeu.
Oui, mais on aura les mêmes.
Mais non, justement. On élit ces personnes de manière différente pour que les élus soient nouveaux et contrôlés par les électeurs.
Ça peut se faire.
Si on se bat pour ça, oui. Si on en a la volonté, oui. En tout cas, plus que de croire en la personnalité providentielle.
Mais il y a Bruxelles, avec ses dictats.
Justement. Les constituants pourront reposer la question des traités.
Évidemment.
Voilà, donc c'était la petite vidéo qui argumente. Donc
c'est un peu kitsch, ça je dis pas.
Un petit mais chouïa, mais bon, en plus on n'a pas l'image, mais on imagine deux personnes, ouais, voilà, il y en a une qui lui explique, mais si, on peut faire une constituante.
Oui. Donc ça, la constituante ne peut par essence pas passer par une logique de parti. Alors je sais que Mélenchon l'a mis dans son programme, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse et qui le remet dans le débat public. Au moins, bon, on le fait, on entend ça à gauche.
Et Montebourg aussi, je crois.
Et Montebourg, oui, en effet.
Je crois que Mélenchon parle de 6ème République depuis un certain temps déjà, et puis même, je crois que Montebourg parle même de 7ème, lui. Alors je sais pas,
il a
sauté la 6ème
carrément. Il a cassé la 6ème.
Voilà, mais il y a un certain nombre, effectivement, de candidats essentiellement à gauche qui portent ces idées-là. De
c'est vrai. Mais souvent... faut pas que ça devienne un combat entre représentants de partis, surtout pas par le biais des primaires. Alors, le candidat, quel qu'il soit, en gros, ne sera pas. Enfin, il doit être celui du rassemblement pour la reconstitution du peuple, et nécessaire à la, enfin, qui sera nécessaire à l'élection de cette assemblée constituante. En gros, une démarche partisane ne marchera pas. Il faut une démarche transpartisane, si je peux me permettre, et rassembleuse, qui ne peut s'accommoder que, en gros, d'un rassemblement complet des Français. Et on peut pas mettre la constituante dans la logique de la compétition présidentielle, je pense, est assez délétère. Elle doit être, en gros, la constituante doit être celle du peuple français et pas d'une fraction de gauche ou de droite, quoi. Il faut pas qu'elle ait de couleur politique, faut qu'elle appartienne à aucun parti, aucune personnalité, et en gros, portée par un candidat, elle verra son influence limitée au résultat de ce dernier. Et donc, Mélenchon, ça risque d'être un peu problématique.
mais donc, pour que ça se déclenche, pour que ça ait lieu, ce processus constituant, il faut bien qu'à un moment, soit le pouvoir en place le décide, comme un peu ce que Mélenchon veut faire, soit il y a une sorte de révolution qui est imposée.
Oui, il faut attendre aussi la rencontre des esprits. Il faut aussi que le contexte historique le permette et qu'il y ait une volonté française. Ouais. Après, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a lancé un mouvement qui se passe dans les communes de France, avec beaucoup de maires qui commencent à soutenir. Ça pourrait être intéressant. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais il peut se passer des choses au niveau local qui peuvent s'agréger et faire des mouvements un peu plus importants.
Ouais, en tout cas, oui. Donc, la démarche que soutient l'association pour la constituante, c'est plus une démarche qui vient du terrain, des gens.
Il faut qu'elle vienne des communes. Vraiment.
Un mouvement populaire, quoi.
Mais moi, personnellement, en tout cas, mon point de vue, c'est que. Enfin, pourquoi j'ai été un peu convaincu par cette idée. Après, voilà, il faut y croire, on verra ce que ça donne. Mais pourquoi l'idée, en tout cas, même théoriquement, me plaît, c'est que. Typiquement, on a parlé de 2007-2012 tout à l'heure. Moi, quand je vous prendre l'exemple de mon exemple personnel, on peut savoir ce que ça vaut, mais quand je vois les gens autour de moi, j'ai vu les jeunes autour de moi, ceux qui avaient mon âge depuis qu'on a 18 ans, qu'on a pu voter la première fois moi, je suis de 89, donc on a pu voter la première fois en 2007. Il y a eu un effet quand même. Alors, en 2007, on a tous, beaucoup de amis à moi qui sont plutôt, je vais plutôt être franc, plutôt à gauche, on a tous été assez marqués par Sarkozy. En 2012, on est arrivé. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont divisés en se disant, tiens, on va voter François Hollande. Donc, il y a un certain espoir chez François Hollande, ce que je n'ai jamais compris. Mais bon, passons là-dessus. Il a réussi à avoir un espoir. Bon, pourquoi pas? Les gens en ont marre. Ils veulent encore y croire. C'est très bien. Et on voit un espoir François Hollande qui, je pense, était plus un espoir. Il en a marre de Sarkozy qu'autre chose. Donc, il y a des gens qui ont eu marre de Sarkozy. Et puis, certains qui se sont dit, bon, Sarkozy, non, Hollande, non, merci. On a compris que c'était le même délire. On va voter sur ce gars-là, tribun, avec une belle parole, qui est Mélenchon. Il y a aussi un espoir de ce côté-là. Donc j'ai vu cet engouement et qui a marché aussi avec moi. Hein. Moi, Mélenchon, j'ai dit bon voilà, il bouge, on verra ce qu'il fait, mais j'espère qu'il aura un bon score, on y croit. Alors c'était bien, donc ça a fait un peu le phénomène. C'était une belle phrase, mais bobo radicalisé qui se donne des frissons à bon compte. C'est exactement ça qui s'est passé. Et moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Personnellement, je l'assume.
Alors parles du phénomène Mélenchon, c'est-à-dire des bobos qui se disent.
Oui, c'était très. Il a eu un vote tellement urbain et jeune, c'était impressionnant. Quoi. Les classes populaires n'ont pas trop suivi Mélenchon, malheureusement. Et donc aujourd'hui, mon point, c'était pour dire aujourd'hui, là, quand on arrive en 2017, quand je vois autour de moi, que ce soit mes amis, les gens, ou c'est plus un milieu très parisien, un peu, qu'on fait des études souvent en Sciences Po, etc., Ben, il y avait un certain engouement au changement, mais il y a pas mal de... Enfin, moi-même, je sais pas trop ce que je vais faire dans l'isoloir. Et beaucoup de gens, en gros, sont assez dubitatifs, quoi. Je le vois dans tous les milieux. Les gens se disent, bah, Hollande, non merci, on a compris ce que c'était. Sarkozy, on n'en veut pas. Mélenchon, le phénomène s'est un peu estompé. Alors, je pense pas que le choix de l'extrême droite se pose à beaucoup dans le cadre qu'est le mien. Il y a un désarroi. Et ce désarroi assez désespéré, je le vois partout. Et je pense que proposer un nouveau système démocratique qui revient à la base peut être une des incitations, enfin, peut jouer sur ce mouvement, justement.
Ouais, Paul, ouais.
En revanche, quand tu parlais de l'extrême droite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite parce qu'ils sont dégoûtés de tout le reste de la classe politique, mais qui seraient intéressés, justement, comme autre solution, comme autre alternative, par une constituante.
Oui, peut-être. Oui, c'est juste que dans mon entourage, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être que oui, dans ceux qui vont à l'extrême droite, peut-être qu'on pourrait trouver, justement, des gens qui voudraient revenir un peu, avoir le sentiment qu'on redonne le pouvoir démocratique qu'ils méritent, quoi.
Donc en fait le problème un peu de fond de tout ça, c'est de réintéresser les classes populaires. Personne n'arrive à les accrocher par l'extrême droite.
Ouais, même les classes jeunes bourgeoises. Hein. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'elles vont faire.
Alors les classes jeunes bourgeoises, elles ont voté
Macron. Oui, c'est ça.
Elles peuvent voter une partie Macron ou alors Mélenchon, comme tu le disais. Ouais. Après, il y a eu, on en a déjà parlé, on n'était pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave, les mouvements autour de Nuit Debout qui sont l'expression aussi d'un mouvement des jeunes, alors même si quel jeune, c'est la question.
Voilà, c'est ça.
Donc petite pause musicale et puis on se retrouve et Paul va nous parler aussi d'autres systèmes qui peuvent nous inspirer, notamment la Suisse.
Oui.
On se retrouve tout de suite.
Light on his feet, a young fighter.
Queen sur Aligre FM 93.1. On est dans Voix contre oreille avec l'association pour une constituante. Et donc, si vous n'étiez pas encore réveillé après ça, je pense que c'est fait.
Ah, du Queen, ça fait du bien.
Voilà. On en était donc au désespoir. Alors, si vous êtes désespéré derrière votre transistor, et ben, on peut au moins signer la pétition pour une constituante. Et la pétition donc présidentielle non constituante, oui.
Ah, oui.
Qui est une pétition qu'on trouve sur change.org.
Oui, change.org, tout bêtement.
Voilà. Donc, pour une, je vais y arriver, présidentielle non, constituante, oui, c'est ça le titre de la pétition. Voilà. C'est clair. Alors, Paul voulait revenir sur un sujet.
Oui, c'était à propos de Mélenchon. En fait, on disait que il y a peut-être moins d'engouement en ce moment que en 2007 ou 2012. Mais en fait, il y a quand même des sondages où Mélenchon bat Hollande dans certaines configurations. Et notamment, je pense que son discours sur l'Assemblée constituante est positif, puisque ça va sûrement lui permettre de rassembler un peu plus que le discours un peu hargneux gauchiste qu'il avait dans les dernières élections et qui doit sûrement effrayer une bonne partie de la population.
Oui, non, c'est pas faux. Donc, ça me fait plaisir qu'on en parle sur débat public, mais oui.
Ouais, il est dans un truc positif, que d'opposition.
Je pense pas que ce soit bien juste que ce soit porté par un candidat, mais dans l'absolu, le mettre sur le débat public, c'est quand même une bonne chose. Ouais.
Ok, alors, donc inspirons-nous un peu de.
Parce que la constituante, d'autres... c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après?
Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a plein d'autres.
Il y a plein de choix
d'autres systèmes possibles. Le champ des possibles est très large.
Ça, l'idée, c'est que les Français choisiront à échelle locale, mais on peut essayer de voir qu'est-ce qui peut être choisi, quelles sont les options qu'on peut avoir.
Voilà, et puis alors notamment la Suisse, qu'on prend rarement pour exemple, mais qui peut être un pays aussi vertueux en termes de démocratie. Paul.
Voilà, donc juste à côté de chez nous, il y a la Suisse qui est donc un exemple de démocratie. Et alors si on veut parler de ces institutions, on peut dire que c'est un État fédéral avec une volonté de consensus qu'on peut appeler la démocratie de concordance, et enfin des gros aspects de démocratie directe. Donc d'abord, il faut rappeler que la Suisse, ça a été pendant 6 siècles une confédération, c'est-à-dire un ensemble de cantons indépendants qui s'organisaient entre eux, mais sans organe supranational. Et ça a changé au XIXe siècle, en 1848, avec la première constitution fédérale. Donc la Suisse, c'est un État fédéral, avec 3 niveaux de souveraineté. Un niveau local, où sont gérées les affaires locales, logiquement. Un niveau cantonal, la Suisse, c'est 26 cantons souverains, avec leur propre constitution. Et ils sont souverains dans tous les domaines qui ne sont pas limités par la constitution fédérale. Donc on a la fiscalité, la police, l'éducation, les transports, et j'en passe. Et enfin, un niveau fédéral, où là sont gérées les affaires étrangères, la dépense, une bonne partie de la justice. Et à ces 3 niveaux, on peut ajouter un 4e niveau, c'est le peuple, donc qui va intervenir directement. Ça, c'est la démocratie directe, dont on parlera un peu après. À ces 3 niveaux correspondent des institutions. Donc au niveau communal, on va avoir des genres de conseils municipaux dans les grosses villes, un peu comme en France, mais il y a aussi des assemblées communales où là, en fait, c'est tous les citoyens qui se retrouvent dans des assemblées et qui vont voter directement des décisions locales sans passer par des représentants. Donc ça change beaucoup par rapport à la France. Après, au niveau fédéral et au niveau cantonal, on a une organisation des institutions qui se ressemblent un peu, avec d'un côté, pour le pouvoir législatif, une assemblée et de l'autre, un gouvernement de quelques élus. Donc, par exemple, au niveau fédéral, on a d'un côté une assemblée bicamérale avec une chambre qui représente le peuple, élu à la proportionnelle, et une chambre qui représente les cantons, donc, et non pas le peuple. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 membres par canton, et ce, quelle que soit la population du canton. Et ce qui est, c'est que toutes les lois vont être votées à la double majorité. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'une loi soit votée, il faut la majorité du peuple et la majorité des cantons. Donc, on peut avoir une loi qui ne va pas passer parce qu'elle n'a pas la majorité des cantons, alors que la majorité des citoyens est pour. Donc ça, c'est pour l'Assemblée. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui s'appelle le Conseil fédéral, qui est constitué de 7 membres, élus pour 4 ans par l'Assemblée fédérale. Et en gros, le Conseil fédéral va proposer les lois qui vont ensuite être discutées, amendées et votées par l'Assemblée fédérale. Au niveau cantonal, c'est à peu près pareil. Simplement, il y a du suffrage universel pour le gouvernement. Alors la question, c'est comment ce gouvernement est désigné et comment il gouverne. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler donc la démocratie de concordance en Suisse, qui est une recherche de consensus et de stabilité. Parce que d'abord, le gouvernement représente les principales composantes politiques et culturelles du pays. Donc d'abord, ces 7 membres sont désignés selon ce qu'on appelle la formule magique en Suisse. C'est-à-dire qu'ils sont censés représenter les 4 ou 5 grands partis du pays. Donc il y a par exemple en ce moment 2 membres pour les socialistes, 2 membres pour la droite libérale, 2 membres pour l'UDC, les conservateurs, et 1 membre pour le parti démocrate chrétien. En plus, ces 7 membres sont censés représenter la répartition dans le pays entre les germanophones, les francophones, les italophones, entre les protestants et les catholiques, entre les hommes et les femmes. Donc c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui représente toutes les composantes du pays, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de grands partis d'opposition en Suisse, puisqu'ils sont déjà tous au gouvernement. En plus, ce gouvernement, il décide de façon collégiale. C'est-à-dire qu'il y a une présidence de ce gouvernement, mais elle a uniquement un rôle de représentation, et elle est tournante. En fait, ces 7 membres vont tout décider selon le principe de la collégialité, c'est-à-dire ils vont essayer d'atteindre un consensus sans vote. Donc si je résume, il n'y a pas d'opposition, il y a un mode de gouvernement collégial, ça donne une grande stabilité. Mmh. Ces conseillers, ils restent au pouvoir jusqu'à ce qu'ils aient envie de partir, en moyenne à peu près 10 ans.
10 ans ? Ouais. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas une date limite
Non.
Date de péremption.
Le conseil fédéral, il n'a donc jamais été renouvelé intégralement depuis 1848. Et autre facteur de stabilité, le gouvernement ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas démettre le gouvernement.
D'accord.
Enfin, ils ont traditionnellement un système politique suisse qu'ils appellent le système de milice, c'est-à-dire que, en gros, les mandats politiques, c'est considéré comme une fonction qui est en plus d'un travail. Donc les gens, la plupart en fait des élus, ont un travail à côté, ce qui permet de limiter la professionnalisation de la politique. Et en passant, c'est l'un des systèmes parlementaires les moins chers de l'OCDE. Donc en résumé, la démocratie de la concordance, c'est la stabilité et le partage du pouvoir entre le niveau fédéral et les cantons, entre le peuple et les cantons, à travers la proportionnelle, à travers un gouvernement qui fait consensus et décide de façon collégiale, et enfin à travers l'intervention du peuple. Donc ça, c'est la démocratie directe qui caractérise le système suisse. Cette démocratie directe, elle intervient selon 3 modalités. On a les référendums obligatoires et facultatifs, et l'initiative populaire. Le référendum obligatoire, c'est à chaque fois qu'on veut changer la constitution, il faut passer par un référendum, c'est systématique. Il faut la majorité du peuple et des cantons. Les référendums facultatifs, c'est à chaque fois qu'une loi est votée, en fait, le peuple, à partir d'un certain nombre de signatures, peut demander à ce que ce soit validé à travers un référendum. Et ça, c'est il faut seulement 50 000 signatures pour le lancer. Donc c'est 1% du corps électoral, c'est très facile à organiser. Il suffit qu'un parti, un syndicat, n'importe quoi, organise une pétition, c'est fait. Et troisièmement, il y a l'initiative populaire. Là, c'est carrément le peuple qui va proposer une loi, un texte législatif, qui sera ensuite voté à travers un référendum. Ça, c'est pareil. Il faut 2% du corps électoral, 100 000 signatures. C'est assez facile. Par exemple, en 2012, le peuple avait proposé de passer de 4 à 6 semaines de congés payés. Ça a été bizarrement rejeté à 67%.
Bon, c'est marrant.
Si on compare à la France... En France,
étonnant.
Ouais, non, ça c'est sûr qu'on n'aurait pas ça en France.
C'est un choix. Mais...
Et si on compare à la France, en France, avec la 5e République, on était censé avoir une relation directe entre le pouvoir et le peuple, et notamment à travers le référendum. Or, depuis 58, on a eu 9 référendums contre près de 400 en Suisse.
Oui. Alors, 400 référendums depuis 58.
Depuis 58, ouais.
Donc ah oui carrément. Enfin, non,
mais votations.
Ouais, donc pas, hein. les votations c'est sans arrêt, ils s'expriment sur des sujets.
Ouais, une démocratie active quoi.
Et en fait on pourrait se dire est-ce que c'est pas compliqué à mettre en place, est-ce que ça coûte pas cher?
Bah oui oui.
En fait non, pas tellement. Il y a puisqu'ils regroupent les votations.
Ouais.
Donc les votations c'est à peu près 4 ou 5 fois par an. Les gens reçoivent des bulletins chez eux sur plusieurs questions et après ils renvoient le bulletin de leur choix par la poste. Voilà, ça se fait assez simplement. Hmm. Ensuite, ce qu'on fait parfois comme critique au système suisse, c'est que cette recherche de consensus et de stabilité, ça crée un certain immobilisme. C'est possible, mais en même temps, on peut aussi voir ça comme un point positif.
Oui, ça a l'air de bien se porter là-bas. Donc,
voilà. Et enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est est-ce que la démocratie directe, ça marche vraiment, puisque est-ce que les gens sont capables de discuter de sujets politiques qui sont un peu complexes? Bah la réponse, c'est plus on les implique, plus probablement ils seront compétents.
Mais oui, ah, très bien.
Et notamment, s'ils sont impliqués dès le niveau local, dans ces assemblées locales, et à travers, au niveau cantonal et fédéral, ces référendums qui leur permettent d'intervenir constamment dans la politique. Quoi.
Ouais, Ismaël,
tu... Non, juste la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, Paul, c'est est-ce que justement c'est ce système-là de démocratie très active est transposable dans un pays comme la France qui est beaucoup plus gros avec une population beaucoup plus importante ?
Bah, en fait, moi, je vois pas en quoi la taille va forcément changer quelque chose. Je vois pas trop le système fédéral en France, par exemple, parce que c'est pas du tout notre histoire qui est plutôt centralisatrice. Mais en revanche, je vois pas en quoi on pourrait pas mettre en place une démocratie directe, enfin des aspects de démocratie directe en France. Finalement, d'ailleurs, en Suisse, ça marche au niveau local, ça marche au niveau cantonal, ça marche au niveau fédéral. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher à une échelle encore plus large, qui serait un pays de 65 millions d'habitants.
Voilà, donc au lieu d'avoir un référendum tous les 5 ans, on en aurait plusieurs par an, mais on s'exprimerait sur plusieurs sujets.
Ah non, là c'était super complet, ça m'a fait plaisir à entendre. Ça fait rêver, hein. On se dit qu'il y a quand même moyen d'améliorer les conditions de démocratie. Hein.
Et le gros argument qu'on retrouve tout sans arrêt, c'est voilà, l'éducation du peuple, il n'est pas habilité à.
C'est insupportable.
C'est effectivement assez insupportable. Le peuple, il n'est pas finalement.
Non, voilà.
Il a pas moins de bon sens que.
Surtout, mais les gens disent, le peuple sait pas, va se planter. Non, mais ça fait 30 ans qu'on a des technocrates qui aussi font des erreurs. Quitte à prendre des erreurs du plantage, moi je prends celui qui est populaire, qui est démocratique. Non, mais prenons celui qui vient du vrai pouvoir souverain plutôt que de technocrate que personne n'a élu. Quoi.
Voilà, et on a vu donc lors du référendum sur le traité constitutionnel que le peuple, on lui demande son avis, même sur des sujets quand même assez complexes, il peut se pencher sur la question.
Il est trahi derrière.
Et oui, c'est voilà. Ça. Ah oui, oh là là.
Ah voilà, être trahi derrière, ça effectivement.
C'est le problème.
Alors, Antonin.
Je vais conclure rapidement, et justement là-dessus, en termes de démocratie directe, on avait déjà eu un représentant du mouvement Commune Citoyenne ici il y a quelques mois, Yvan Lubranesky des Molières, et donc on a ce mouvement continu via les cahiers d'exigence dans le mouvement des communes citoyennes. En fait, l'idée serait de faire signer. Des cahiers de doléances, enfin les gens rédigeraient des cahiers de doléances, des cahiers d'exigence en l'occurrence, durant la période électorale de 2017, et pendant en fait les communes participatrices acceptent de mettre en gros ces cahiers à côté des endroits où on vote pour que les gens viennent participer et faire un mouvement citoyen. Alors, récemment cet appel a été signé par le président de l'association des maires ruraux de France, donc ça c'était un peu une petite victoire parce que c'est quand même assez important, c'est souvent dans les petites communes qu'on veut commencer ce mouvement, donc c'était assez chouette d'avoir son soutien. Au niveau de l'asso, on a quand même pas mal de choses qui se passent, des demandes de conférences, pas mal de développement en termes de cercles locaux. Il y a eu une conférence il y a pas longtemps à Montreuil, un événement en Ariège, à Chartres, et voilà, donc dans toute la France, ils commencent à avoir des petites choses, des petites initiatives, mais qui commencent à prendre, et localement, les gens, dans leur ville, leur village, leur commune, aiment participer à des débats. Et donc ce peuple dans lequel on n'a pas confiance, ce sont des gens qui ont quand même aussi leur bon sens, leur notion de ce qui est bon pour eux, pour leur pays, pour l'histoire de France, etc.
Et donc ça
fait plaisir de voir que ce mouvement décolle un peu et que de plus en plus de maires, je pense, quelle que soit l'étiquette politique, alors peut-être plus à gauche au début, mais je pense que pour l'instant on a un peu de tout, commencent à s'y intéresser et à se dire j'ai envie de donner aussi une voix sur les questions plus nationales à mes électeurs, aux gens qui sont sous ma. Qui sont aux gens qui habitent dans les communes que je gère, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, dans ce même ordre d'idée, samedi dernier, il y avait la journée de la transition.
Oui.
Où finalement il y a eu pas mal d'associations qui présentaient leurs alternatives. Oui. Donc ça aussi, ça va dans le sens on s'implique pour à un niveau local pour finalement s'organiser un peu différemment, quoi.
Ouais.
Le mouvement est en marche, comme dirait Emmanuel Macron, finalement. On y revient toujours.
Ah, oui. C'est la star. Ah, mais Macron est tout compris.
Ah, je sens qu'on a des supporters de Macron.
Non.
À fond. Mais donc voilà, c'est comme une citoyenne. Et encore une fois, il y a sur Internet, vous avez accès à la pétition. Encore une fois, c'est juste un instrument d'agrégation des aspirations. Et on espère, en gros, qu'on va concrétiser ces aspirations dans le mouvement des communes citoyennes. Ça sera une étape, j'espère, vers la reconstruction d'un peuple souverain, sans heurts, sans violence et surtout hors de toute allégeance.
Ok, sur ces bonnes paroles, on en reste là.
Ouais, très bien.
Merci beaucoup à tous.
Merci.
Merci beaucoup. Allegra, 93.1 FM.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une
qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr. Voilà, c'était donc notre énième, on les compte même plus, émission avec l'association. Donc on se quitte, donc merci Antonin Delever. Donc on se retrouvera le mois prochain.
Oui, toujours un plaisir.
Voilà. Merci Ismaël Merighetti.
Merci à vous.
Donc nous on se retrouve à 17h.
Allez. avec plaisir sur YouTube Fast and Curious TV.
Voilà, Fast and Curious TV, donc pour le nouvel épisode de la série, on va suivre ça et donc bah, on se retrouvera pour en parler et pour le diffuser sur la Ligue FM.
Avec grand plaisir.
On va prendre date dans les prochaines semaines. Et puis donc merci Paul Pescaire pour merci cette c'est très intéressant zoom sur la Suisse. Voilà, puisque
avec du baume au cœur, hein. Démocratique. Ouais.
Voilà, on pense que à l'évasion fiscale et au secret bancaire, mais finalement quand on parle de
au chocolat quand même.
Et à Rousseau.
Voilà, mais quand même. Pas... Ok, donc ce matin c'était Adrien et Francesco qui étaient aux manettes à la réalisation de l'émission. Merci à eux. À 9h30, donc vous retrouvez Denis dans la voix du ghetto, fidèle au poste, et 10h30 Véronique pour il y a un éléphant dans le jardin.
Et je fais une petite dédicace à tous mes étudiants de Sciences Po qui m'ont inspiré encore avec des débats, etc., que j'ai vu il y a pas longtemps, qui m'ont encore emmené voir, mais que j'ai vu il y a pas longtemps et qui ne pouvaient pas se libérer car ils travaillent beaucoup. Alors je sais pas s'ils écouteront le podcast ou s'ils écoutent en ce moment, mais en tout cas, je pense
et à... Bah, ils reviennent quand ils veulent dans l'émission. Voilà, très bonne journée à tous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Voix contre Oreille.